heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Bonjour, bienvenue sur l'affranchi podcast. Aujourd'hui, épisode spécial. Et oui, nous sommes plongés dans notre troisième confinement. Et pour autant, l'affranchi podcast continue. Nous allons aujourd'hui vous embarquer dans un univers un peu différent de d'habitude, mais qui est un univers qui nous touche particulièrement à l'affranchi, c'est la poésie. C'est-à-dire qu'on va parler d'amour, on va parler de danse, on va parler d'émotion, on va se laisser porter par des lectures poétiques, par la voix de Marcella, qui est l'autrice que nous recevons aujourd'hui. Elle est publiée aux éditions Les Vents Terniers, qui est une maison d'édition artisanale créée par Élise Bétremieux à Saint-Omer, dans les Hauts-de-France. Et nous sommes ravis de participer au festival Oh les livres, qui participe à mettre en relation des éditeurs et éditrices de grands talents avec des librairies passionnées. Donc, Les Vents Terniers fois l'affranchi, c'est parti.
Les gens qui s'aiment partagent des mandarines.
Les gens qui s'aiment se touchent des yeux.
Les gens qui s'aiment sont nus. Les gens qui s'aiment s'endorment en se tenant par leurs rêves.
Les gens qui s'aiment se fêtent.
Les gens qui s'aiment disent oui.
Les gens qui s'aiment
savent
que jamais rien ne se termine.
Il y a aussi des gens qui dansent.
Les gens qui dansent se débordent avec élégance.
Les gens qui dansent habitent la terre en oiseaux.
Les gens qui dansent puisent la puissance dans l'impuissance.
Les gens qui dansent marchent au bord du monde.
Et les gens qui dansent s'en balancent. Bonjour Marcella.
Bonjour Soazic.
Bienvenue sur l'affranchi podcast. Je suis vraiment ravie de notre rencontre dans cette première semaine de confinement 3. C'est important de le préciser parce que je pense qu'on a tous besoin d'une petite bulle de poésie, d'amour et d'ailleurs. Et je suis assez persuadée que vos trois livres vont nous permettre de nous évader. Vous avez participé à une belle aventure avec les éditions Les Vents Terniers, à créer trois livres qui sont dans des éditions artisanales, donc faits à la main. Comment est née cette superbe aventure éditoriale ? Racontez-nous tout.
C'est une excellente question. Déjà, je suis ravie d'être là. C'est en effet une très belle aventure avec les éditions Les Vents Terniers, Élise Bétremieux. Comment elle est née ? Pour tout vous dire, le contexte exact, je ne m'en souviens plus du tout. C'est la vérité. Comment on s'est rencontré avec Élise ? En tous les cas, ce qui est certain, c'est que à un moment donné, je lui ai envoyé des textes. J'ai dû lui envoyer des textes, en fait. Tout simplement, ça doit être aussi simple que ça. Je lui ai envoyé les textes des gens qui s'aiment. Les illustrations sont pour ce livre-là d'Elsa Yeramint et Élise a dû me répondre positivement pour ma plus grande joie, pour notre plus grande joie. Et elle a édité donc ce premier livre Les gens qui s'aiment, qui a été un joli petit succès et qui, par chance, a donné lieu à une collection beaucoup plus récente pour le coup sur l'idée d'Élise qui a été d'ouvrir cette collection Les gens qui, et elle a fait donc appel à plusieurs auteurs, femmes et hommes, pour travailler cette collection avec des thématiques différentes. Et c'est ainsi que j'ai pu lui proposer Les gens qui dansent, paru il y a quelques mois, et dont l'illustratrice, là, est Marie Poirier. C'est toujours une belle aventure de travailler avec des éditeurs comme Les Vents Terniers, parce qu'on peut y mettre tout son art, tout son cœur, toute son âme, et qu'on n'a jamais la sensation d'être, entre guillemets, trahi, de tomber dans quelque chose de juste plaisant, commercial, pour faire plaisir au public ou au grand public. On est là, on amène un travail, et ce travail est respecté à la virgule, à la lettre, c'est toujours beau. Voilà, il y a cette esthétique, ce travail en profondeur, et ce respect du travail tel qu'on le conçoit nous, comme auteur ou illustrateur, illustratrice, hein, bien sûr. C'est un véritable partenariat. Et en ça, c'est très porteur pour des auteurs, des illustrateurs, d'être édité par ce type de maison-là.
Mais peut-être que tu peux prendre quelques secondes pour un petit peu projeter les gens qui écoutent sur ces créations artisanales. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de livres faits de manière artisanale, on s'imagine évidemment des livres faits main. Mais ce qui est très beau aussi dans les ouvrages des Vanternier, c'est que vous êtes dans une expérience vraiment tactile avec des papiers qui sont très beaux, beaucoup de pliages. On imagine très bien tout le travail et l'attention en fait des mains d'Élise et des autres créatrices qui l'accompagnent pour faire tous ces petits objets. Et donc pour la collection Les Janquis, en effet, vous avez une rencontre entre donc une illustratrice et une autrice pour les deux ouvrages qu'on a aujourd'hui, et donc une poésie fait un lien avec une illustration et comme ça d'une page à l'autre. Ce travail comme ça d'illustration, cette rencontre avec ces deux illustratrices, est-ce que vous avez été questionnée sur ces binômes ou est-ce que c'est des collaborations qui sont tombées sous le sens, sous le regard d'Élise, votre éditrice, ou vous avez fait des propositions ou comment votre travail avec les deux illustratrices se sont passés?
Le lien avec les illustratrices, la collaboration plutôt, s'est faite tout à fait en dehors des éditions Les Vanternier. Et à chaque fois, c'était des rencontres que j'avais provoquées moi ou qui avaient été dues au hasard. En général, voilà, ça se fait comme ça. On apprécie le travail les uns des autres et on s'appelle et on dit « Tiens, si on faisait quelque chose ensemble ». C'est ce qui s'est passé avec à la fois Elsa et à la fois Marie. Et moi, je viens en général, et c'est aussi une façon de faire que j'ai, de manière très générale, même en dehors de ma collaboration avec Les Vanternier, je viens avec un travail double, toujours. Je n'arrive pas avec des textes que je remets sur le bureau d'un éditeur, d'une éditrice, en disant « Tiens, lisez ça, et faites-en ce que vous voulez, et collez-moi un illustrateur. » Je conçois toujours le livre comme déjà un objet de désir de deux personnes, et donc un objet aussi, je l'espère, désirable après, et créé par deux personnes. J'ai toujours fait comme ça. Peut-être qu'un jour, je ferai différemment, dans d'autres contextes. Peut-être un peu comme un réalisateur, il va penser à une thématique de film. Tout de suite, il va voir l'acteur qu'il veut et il va le faire, son film déjà dans sa tête, en se disant, tiens, ça va être telle actrice, tel acteur. Moi, je fais un petit peu comme ça avec mes textes. Je me dis, ah, mais ça va vraiment être chouette. Si c'est telle illustratrice qui prend mes textes, les agrandit, parce que je vois toujours l'illustration comme une expansion, en fait, du texte, et je le vois pas comme une illustration qui va coller au texte. C'est-à-dire que j'attends jamais l'illustrateur qui dise, ah bah tiens, j'ai bien compris ton texte, je vais te passer ça, mais j'attends qu'il donne sa propre voix, sa propre énergie, son propre que l'illustratrice incarne le texte à sa façon. Et du coup, c'est pour ça que j'ai toujours l'impression que c'est un double objet. J'emmène les textes avec l'illustration qui vont ensemble. Et pour moi, dans mon imaginaire à moi, le texte est embelli par l'illustration et ne peut pas exister sans l'illustration. Et vice-versa, l'illustration est embellie par le texte et ne pourrait pas exister sans le texte. Donc, on arrive avec cette œuvre composite. Et c'est comme ça que j'ai proposé Les gens qui s'aiment à Élise, du coup qui a aimé. Et j'ai tout de suite adoré le format, les papiers qu'elle avait choisis. On m'avait donné notre avis. Bon, Élise demande toujours aussi notre avis, ce qui est quand même très appréciable. Même si c'est elle qui, au final, prendra la décision. C'est elle le capitaine à bord dans cette histoire-là. Mais voilà, notre regard à nous est important. Et ça grandit aussi, ça, le plaisir, je trouve, de la collaboration.
On sent tout l'amour qu'il y a. En plus, c'est vrai que le fait que le premier né de cette collection, qui est finalement venu un peu plus tard, mais s'appelle donc « Les gens qui s'aiment ». Moi, je me souviens de l'avoir découvert. Et les premiers jours où on le mettait en vente à la librairie, il y avait vraiment cette émulsion, en fait. Ce petit moment où... quand on découvre une phrase qui résonne tellement en soi qu'on a juste envie de la lire tout haut, qu'on a envie de la montrer au voisin, qu'on regarde le libraire avec un peu d'étincelle dans les yeux en disant oh, « j'ai trop envie de l'avoir chez moi ». Et c'est vrai que moi, celui qui... Enfin, le petit passage qui m'a fait ça, c'est celui avec les mandarines. Les gens qui s'aiment partagent des mandarines. Et il y a eu cette petite joie, en fait, complètement inattendue, de me dire « Oh bah oui, mais tellement !» S'il y a bien cet endroit-là de l'amour, c'est ça, en fait. C'est quand on a envie de partager une mandarine.
Oui, c'est ça. C'est ça. C'est ce que vous décrivez, c'est que c'est un petit peu ce qu'on se disait tout à l'heure, hors antenne, c'est que toutes les personnes qui vont lire de la poésie vont s'approprier les phrases poétiques, vont s'approprier les poèmes. Et c'est vraiment, pour moi, la base du merveilleux. C'est vraiment ce qui me porte. C'est de me dire quelque chose qui part de mon intimité, de mon histoire, de mon corps aussi, parce que la poésie part vraiment du corps. Ma voix va être posée quelque part, alors, chez les Vanterniers ou ailleurs. Il se trouve qu'aujourd'hui, on parle des gens qui s'aiment, des gens qui dansent. Et ensuite, ça ne m'appartient plus. Et chaque personne qui va lire ces textes va se réinventer avec ces textes sa propre histoire. Et c'est pour moi vraiment le merveilleux de la poésie, où cet espace qui est donné, d'abord à la personne qui écrit les textes, c'est un souffle qu'on se donne, qu'on s'offre à soi-même, et après, ce souffle, il s'envole. Et il va se poser là où il peut se poser, là où les gens le prennent, hein, parce que la poésie, il y a plein de sortes de poésie, tout le monde n'aime pas la poésie, et puis il y a des gens qui n'aiment pas du tout, a priori, la poésie, et qui vont se retrouver face à certains textes, pas nécessairement les miens, bien entendu, sur lesquels ils vont d'un coup se dire « Ah, mais ça aussi, c'est de la poésie, mais j'aime, c'est bon. » Et ce qui est le comble du comble, pour moi, de la beauté de la chose, c'est lorsque les gens commencent, les lectrices et les lecteurs commencent à écrire leur propre texte. Et je dirais que peut-être, derrière tout ça, ce serait mon but ultime. Et d'ailleurs, je le dis de manière peut-être un peu immodeste, hein, mais ça m'arrive assez fréquemment que les gens m'écrivent, qui me téléphone, qui m'envoie des textos, qui me prennent contact avec moi sur les réseaux sociaux pour me dire « ça m'a donné tellement envie et j'ai créé mes propres textes ». Alors parfois on me les montre et c'est une émotion sans nom parce que là je me dis « mais c'est aussi beau que ce que j'ai écrit moi ». Voilà, alors après c'est pas une vocation pour tout le monde, on a pas tous envie de publier des livres, et bien sûr, mais il n'empêche que le but ultime c'est de faire se déloger la parole. C'est vraiment que ça sorte et qu'on se dise « ah oui ». Et la simplicité, par exemple, des phrases qu'on peut lire dans les gens qui s'aiment et dans les gens qui dansent, incite à ça. Les autres gens qui aussi, hein, bien entendu, hein, les phrases sont très courtes. C'est un petit peu la consigne. Hein, qui est partie des gens qui s'aiment, la consigne, c'était le même nombre de textes, des phrases courtes. Et cette espèce d'accessibilité. Et à la fois, on est dans quelque chose de très simple et on n'est pas dans quelque chose de simpliste. Donc ça va percuter. Et ces phrases-là, ces textes-là, ces textes poétiques, parce qu'en fait, c'est pas vraiment de la poésie, ce sont des textes poétiques, vont arriver à poétiser, parfois, pas tout le temps, mais la personne elle-même. La personne elle-même, va, la lectrice sélecteur va se dire « Ah, oui, d'accord, ça me fait quelque chose. » Et c'est ce « ça me fait quelque chose » qui, pour moi, devient aussi quelque chose de très incarné, de très physique. Parce que j'entends ce que les gens m'expliquent par rapport à ma poésie, et il y a quelque chose qui vibre. Et cette chose qui vibre va jusqu'à « Allez, moi aussi j'écris ». Et pour moi, alors ça, c'est
le moment.
C'est magnifique.
Mm-hmm. Il y a, je regardais un peu comment les Vanterniers parlaient de cette collection, et il y a cette phrase que j'ai trouvée, qui d'abord m'a questionnée, et puis ensuite je me suis dit « Mais oui, on est tellement à cet endroit-là ». Elle note Élise, il pose les regards sur ce qui est à la fois ordinaire et essentiel. Et c'est vrai que, en fait, la poésie, ça a été un genre littéraire qui a été quand même assez malmené. Il y a quelque temps, les gens n'y allaient pas très spontanément, mais peut-être parce qu'il y avait une peur, en fait, de ne pas comprendre, de ne pas se laisser porter, etc. Et il y a comme une sorte de nouvelle génération de poètes et poétesses qui vont à cet endroit-là de l'ordinaire et de l'essentiel. On peut penser à Cécile Coulon qui fait ce travail vraiment très très bien aussi, à Rupicor pour les poétesses, une poétesse étrangère, et qui vont vraiment en fait permettre aux gens de trouver dans leur quotidien, dans leur jour le jour, une certaine poésie. Et ça égaye en fait, d'une certaine manière, un trajet assez routinier, parce que quand on parle d'ordinaire et de quotidien, la routine pourrait très vite y être accolée, et pour autant non, en fait, parce que oui, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, manger une mandarine peut tout de suite être beaucoup plus. Et je sais que quand on a ce genre de texte pépite, ces textes qui vont venir en fait tout chambouler de l'intérieur, parce que c'est ça aussi la poésie, cette émulsion dont je parlais un peu avant, où on se dit ah oui, mais les mots, en fait, les mots me font quelque chose, les mots m'amènent à quelque chose, à un autre endroit. Et c'est vrai que beaucoup de gens ont ce besoin de coucher sur le papier leurs émotions, de sortir ce qui les envahit, que ce soit en positif ou en négatif. Et on est face à de la transmission de l'émotion, parce que c'est vrai que on nous invite pas forcément, en fait, dans la société aujourd'hui, à parler, à se faire entendre, ou en tout cas à oser dire ce que l'on ressent, parce que c'est considéré comme une vulnérabilité quand même dans notre société très capitaliste et patriarcale. Mais dès qu'on se reconnecte à cet endroit-là, en fait, le monde paraît beaucoup plus beau, même s'il reste dur. Parce qu'on, je peux pas m'empêcher là de raccrocher à votre métier qui est aussi d'être sophrologue, de me dire, est-ce qu'en laissant comme ça des preuves d'amour des mots, des preuves de votre envie de partager avec les gens ces émotions-là, ça participe pas aussi à les rendre plus heureux, à les rendre plus ancrés dans leur vie malgré tout?
Au sujet du partage d'émotions, la remarque qui me vient, c'est, je suis absolument d'accord pour le mot partage, mais ce qui me semble, c'est que lorsqu'on laisse échapper une émotion qui est à soi, même, on la partage, pas pour que l'autre ressente la même émotion, mais on la partage pour que l'autre puisse laisser surgir ses propres émotions, qui vont venir se nourrir, pourquoi pas, de notre émotion à nous, mais aussi de ses propres émotions à elle-même, et des émotions qui vont avoir plein de liaisons différentes avec les événements que la personne aura vécu. Donc, laisser surgir cette émotion par les mots, c'est quelque chose qui est exponentiel. Voilà, qui donne un espace, qui ouvre un nouvel espace. Pour répondre à la question, je ne sais pas trop quoi répondre à cette question, en fait. Mon travail en tant que sophrologue, ce qui est certain, et peut-être ça répondra partiellement à votre question, c'est d'accueillir les gens qui viennent me voir et de leur offrir un espace. Un espace qui, d'abord, va commencer par un espace d'écoute totale, absolue. Écoute absolue, c'est écoute sans jugement, écoute sans intervention intempestive. Simplement, j'accueille, moi, en tant que sophrologue, ce qui vient, ce qui m'est dit. Je ne cherche pas à analyser, comprendre d'où ça vient et à tout de suite donner des solutions, etc. Donc déjà, ça, c'est précieux, parce que ce silence dit bienveillant, c'est un mot qui est un petit peu compliqué, je trouve, à utiliser aujourd'hui, tellement il est dit et redit, mais c'est un silence, on va dire plutôt judicieux, elle va laisser déjà la personne pouvoir extérioriser ses émotions, voilà, revenir à l'émotion, parce que ça lui est ouvert, ça lui est possible. Et ensuite, pour moi, mon travail de sophrologue va être de guider la personne vers un mieux-être, puisque en général, quand les gens viennent me voir, c'est qu'ils ont quelque chose, même une toute petite chose, hein, parfois, qui est un petit peu déficiente dans leur vie, qui leur pose problème, mais sans pour autant les conseiller. C'est-à-dire que je vais aller avec la personne, dans son sens, et à travers tout ce que cette personne va m'apporter elle-même, avec ses propres mots, je vais lui proposer des techniques qui vont aller correspondre à ce qui va être le mieux pour elle. Donc elle va s'emparer elle-même de ce que je vais lui apporter avec mes mots, et elle va faire de la technique que je lui apporte presque ce que bon lui semble, c'est-à-dire qu'elle va la suivre, la technique, mais elle va la suivre à sa façon, donc aller mieux à sa façon. Donc c'est un espace, je dirais, où on transmet quelque chose, et du coup, peut-être que ça nous permet effectivement de faire un parallèle avec l'écriture, hein. On transmet ce qu'on appelle un technos logos, c'est-à-dire un texte qui va être très souvent pas écrit du tout à l'avance, hein, qui va être improvisé, voire peut-être préparé un petit peu si on connaît la personne qui vient de voir, qu'on a déjà travaillé avec elle. Et puis, elle en fait ce qu'elle souhaite, elle, et elle va aller naviguer dans ses propres eaux à elle, que ce soit en visualisation, en statique, quand elle est assise sur un fauteuil, on l'invite à rentrer dans une séance d'évocation et de visualisation, soit par les mouvements, les gestes, lorsque on est ce qu'on appelle les relaxations dynamiques, où la personne va aller s'exercer à mettre son corps en mouvement de telle et telle façon. On ne fait que lui proposer, elle les vit. Donc nous, on lui amène quelque chose et elle va le vivre, elle, comme elle le souhaite, et elle va accueillir ce qu'il y a à accueillir de comment elle l'a vécu. Donc, en effet, on n'est pas très loin d'un recueil de poésie, quel qu'il soit, qu'on va lire. On nous fait une proposition, une invitation, mais qu'est-ce que ça nous fait à nous? Et on va le vivre, et peut-être qu'un recueil de poésie va nous mettre dans un état d'euphorie totale, peut-être que ça va être le livre de notre vie, peut-être que ça va nous ouvrir des portes. C'est un petit peu comme ça avec la sophrologie. Alors c'est un parallèle que je n'aurais jamais fait avant cette conversation avec vous, honnêtement, mais je m'aperçois qu'il y a quelques petits ponts entre les deux, et ça mériterait d'être développé, hein. Là, ce que je dis est un peu superficiel parce que ça me vient comme ça en parlant. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là.
Ah ben, moi, j'y crois très profondément parce que je crois que c'est au... Alors, je vais peut-être me tromper, mais en tout cas, l'idée vers laquelle je vais, ça est juste. Il me semble que c'est aux États-Unis où il est possible de se faire rembourser des livres. Ou au Canada, je ne sais plus lequel des pays, mais où en fait les livres peuvent participer à une expérience thérapeutique et à une médecine particulière. J'ai déjà entendu beaucoup de psychanalystes ou psychologues qui accompagnent tout ce travail avec des lectures pour que les gens se projettent dans des types de personnages, etc. Enfin, j'ai toujours apprécié ce parallèle dans la mesure où je me dis, en fait, mon métier, il fait partie de ça aussi en tant que libraire, d'accompagner les gens vers des endroits qu'ils n'auraient peut-être pas imaginé, mais qui vont ouvrir des portes vers d'autres choses. Et d'autant plus dans cette période que l'on vit depuis quelque temps maintenant, qui peut paraître vraiment très cloisonnante. On s'enferme en fait dans notre quotidien, etc. Et j'adore en fait voir qu'un livre peut, moi déjà personnellement, me faire quitter le jour J, l'heure J, ce moment même, cette vie-là. Mais alors, quand en plus, les clients et les clientes vivent la même chose, c'est hyper revigorant, en fait. C'est des petits moments de joie. On se dit, mais en fait, même si c'est que pour une heure, trois quarts d'heure, il y a eu ce petit endroit d'ouverture vers ailleurs, en fait.
On parle de passation, là, en fait. Hein. C'est le passage. Et c'est quand même un tout petit peu le sel de notre existence, cette histoire de passation, hein. Se passer quelque chose. Hein. Quand on passe quelque chose, on sait qu'on va nous passer quelque chose aussi. Et c'est ce flux permanent entre je te donne, tu me donnes, je t'invite à prendre ça, tu m'invites à apprendre ça, je t'ouvre cette porte, tu m'ouvres cette porte, je t'ouvre cette fenêtre, tu m'ouvres cette fenêtre. Et au final, tout ça se fait main dans la main, dans le non-isolement. Et vous avez bien raison de noter que l'isolement via le confinement n'est pas l'isolement véritable en réalité. On est tout à fait sujet à prendre la main des autres de mille manières différentes. D'ailleurs, on est en train de le faire. Et oui, je trouve ça très intéressant, cette analyse des choses.
La Franchi Podcast. La librairie chez vous. Oh yeah!
La danse des sens, sans dessous, sans dessus. Je te regarde,
tu me regardes.
Tu me touches,
je te touche.
Tu me goûtes,
je te goûte.
Tu me sens,
je te sens.
Tu m'écoutes,
je t'écoute.
Tu me vois,
je te vois.
Sans dessus,
sans dessous.
Tu es toi, je suis moi. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, nous sommes la somme de ce que nous sommes. La somme de cet amour infini. Tu es toi, je suis moi. Qui que tu sois, qui que je sois, nous sommes la somme de ce que nous sommes. La somme de cet amour infini.
Je te sens, je sens le poids de ton corps, je sens la dimension de ton corps, je te sens, je sens la température de ton corps, je sens les bruits de ton corps, je te sens, je sens les odeurs de ton corps, je sens la texture de ton corps, je te sens, je sens la couleur de ton corps, je sens le poids de ton corps, je te sens.
Toi, tes tout petits pieds, tes toutes petites jambes, ton tout petit bassin, tes toutes petites fesses, toi, ton tout petit ventre, ton tout petit dos, ton tout petit thorax, tes tout petits bras, tes toutes petites mains, toi, tes toutes petites épaules, ta toute petite nuque, ton tout petit cou, toi, ton tout petit menton, ta toute petite bouche, tes toutes petites oreilles, ton tout petit crâne, toi, ton immensité. Poème à murmurer à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà.
Hey, vous êtes à la franchie?
Et là, de ce fait, ce qui me permet de remonter dans les cycles de la vie, parce que là, on s'entend entre adultes, qui prenons, qui achetons un livre, etc., qui vivons ces expériences-ci. Mais en fait, grâce à votre livre « Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà », mis en dessin par Marie Poirier, ou en tout cas, vous êtes accompagnée avec elle dans ce super beau projet. En fait, ce lien de passeur et de passeuse prend un sens encore plus incroyable dans la mesure où en fait, oui, un enfant à naître, un enfant en construction, va énormément en fait apprendre et recevoir de ces poèmes murmurés. Quelle a été l'aventure de ce livre quand, dans votre parcours de poétesse, de sophrologue, enfin, on a bien vu que j'avais l'intention de bien marier vos deux casquettes. Quel a été l'endroit de cette création-là vers les enfants, en fait, si petits?
Vous avez raison de dire, de vouloir parler de mes deux casquettes, parce qu'il y a quelque chose que je me murmure souvent à moi-même, c'est écriture et sophrologie sont deux mots qui vont si bien ensemble. Et aussitôt, j'ai la chanson des Beatles qui vient dans la tête et en général, j'y garde toute la journée. Donc, peut-être ça va être votre cas, vous me le direz. Ce sont deux mots qui vont si bien ensemble parce que, de manière très naturelle, je me suis rendu compte, en effet, que depuis très longtemps, j'écris des livres et je suis publiée. Et tous mes livres, à peu près, un grand nombre de mes livres, disons, sont extrêmement sophrologiques parce que basés sur le corps, son mouvement, avant même, évidemment, de devenir sophrologue. Aujourd'hui, je suis sophrologue, j'ai continué d'écrire des livres de poésie et maintenant, la nouveauté, c'est que j'écris aussi des livres de sophrologie et pas seulement de poésie. Et disons que « Poème à murmurer à l'oreille des bébés, de 9 secondes à 9 mois et au-delà », est un livre entre la poésie et la sophrologie. J'aime bien dire que c'est un livre au souffle sophrologique. Pourquoi aussi? Donc, il est né plein de fois. Il est né une première fois lors de la naissance de ma fille aînée, qui a 32 ans aujourd'hui. Et donc, dans la chambre d'hôpital, j'avais mon enfant sur moi, comme quasiment toutes les mamans de la Terre. Et je lui ai inventé un petit poème que je lui ai chanté. Ce petit chant, poème que je lui ai murmuré est resté dans notre vie à tous les deux, puisque elle l'a appris, et c'était très simple, il y avait trois paroles dessus. Hein. Et ensuite, c'est parti dans ma mémoire, je l'ai un petit peu oublié. Lorsque je suis devenue sophrologue, j'ai fait plusieurs types de formations spécialisantes. Et lors d'une formation qui traitait de la sophrologie en maternité, Ce poème est revenu, en fait, à la fin de ma formation. Il a rejailli de ma mémoire. Il est sorti de son petit tiroir. Et ça m'a donné très envie de construire autour. Donc, il a été le cœur. Ce texte a été le cœur de ce travail. Je suis allée chercher le texte parce qu'il était écrit quelque part. Hein. Et à partir de là, je me suis dit, ah, c'est un texte tellement sophrologique. Voilà. Et du coup, j'ai écrit une espèce de livre hybride entre la poésie pure et la sophrologie pure aussi, parce que du coup, j'ai été amenée à l'écrire dans un flux sophrologique, dans une forme de limite protocolaire, je dirais, sans même le vouloir. Ça a été complètement instinctif. Parce qu'aujourd'hui, le fait est que je respire sophro, je vis sophro, et je respire écriture, je vis écriture, et que les deux se mélangent assez harmonieusement. Voilà, donc ce livre est né comme ça. Je l'ai proposé à Élise, qui a été très enthousiaste et qui tout de suite nous a proposé, comme d'habitude, comme elle sait si bien faire, les papiers, le format. Tout de suite, on a vu cet objet, Marie et moi, parce que Marie, en effet, Marie Poirier est l'illustratrice du livre. On l'a vu tout de suite, on l'a senti. Je me souviens avoir reçu le papier via Internet, les échantillons, et j'avais l'impression de le toucher, parce que c'est aussi un livre très sensoriel qui va aller chercher tout ce qui se produit autour de la vue, de l'ouïe, du toucher, de l'odorat. Et on a vu ce livre-là comme éclore devant nos yeux, alors même qu'on avait échangé seulement 3 mails. Et j'étais certaine que ce serait un beau livre. C'est le cas. C'est vraiment quelque chose... C'est un très bel objet. Et les gens qui le reçoivent me font toujours des retours qui vont aller au-delà du texte. Et ça, j'aime énormément. C'est-à-dire que oui, ils aiment le texte, oui, ils aiment le dessin, mais ils disent « Ah, quel bonheur d'avoir le livre entre les mains et la texture, et puis la couverture qui scintille un petit peu. » C'est joli parce qu'elle scintille un peu, mais pas trop. Mm-hmm. Quel raffinement. Et puis, comment il est bien emballé quand on le reçoit. Il y a un petit mot qui va avec. Voilà, tout ça, ça entre dans le plaisir de la lecture. C'est ce que j'appelle la beauté, en fait. Il n'y a pas de critère à la beauté. Enfin, c'est pas quelque chose de... Chacun perçoit la beauté de manière différente. Mais c'est une espèce d'esthétisme non surfait, avec une authenticité. Peut-être c'est là où est l'émotion aussi, quoi. L'émotion de tenir entre ses mains autre chose. Voilà, comme quelque chose sur lequel on va pouvoir un peu s'appuyer. Et j'ai eu énormément de retours de papa et de maman, de parents en général, hein, qui m'ont dit, et là on revient sur le début de notre conversation, je crois, qui m'ont dit, on murmure les poèmes, mais on en fait aussi. Ça m'a donné, on me dit souvent, ça me donne envie de construire mon propre texte. Et je suis sortie d'une espèce d'inhibition par rapport au fait de m'adresser à mon bébé et de le toucher. Parce que dans ce livre, il y a une incitation aussi à se rapprocher. Et alors là, voilà, quand les gens me disent « j'écris mes propres textes », voilà. Élise recevra peut-être des manuscrits. Je lui souhaite, je leur souhaite, franchement. Élise ou d'autres éditeurs. Hein. Mm-hmm. Mais si ça peut créer des vocations, même au-delà de la relation parent-enfant, mais tant mieux. Tant mieux, et je crée des ateliers autour des poèmes à l'honneur et l'oreille délivrée auprès de futurs parents ou jeunes parents. L'atelier, la séance se termine toujours par un temps d'écriture autour de qu'est-ce que moi j'ai envie de dire, que ça rime, que ça rime pas, que ce soit, que ça ressemble à une poésie ou pas, comment je veux m'adresser à mon enfant sur la base de ce que je viens de vivre dans cet atelier.
Mais ce qui est certain, c'est que, en effet, en fait, vos livres sont en plusieurs étapes. C'est-à-dire que, d'abord, ils sont pour soi, parce qu'on sent ce que ça nous fait. Puis, on a envie de le partager, parce qu'on a envie de transmettre ce qu'on a vécu en le découvrant. Et après, de ce que j'entends, ça nous amène à faire de soi des matériaux de création, et ça, c'est une expérience qui est vraiment totale. Je sais que vos livres s'offrent énormément, que c'est des cadeaux spontanés qui ne peuvent pas être niés. En fait, on voit bien, il y a la découverte du livre et tout de suite, on sait à qui on veut le transmettre. Donc, merci beaucoup pour ça. Je pense qu'on peut terminer cette conversation en invitant les gens à être les propres poètes et poétesses de leur vie. C'est un petit peu ce moment d'ultra-émotion, mais pour les gens qui nous connaissent à la franchise, ils savent qu'on ose aller au plus profond des émotions, même quand elles peuvent paraître un tout petit peu cheesy et facile. Mais nous, toute émotion est bonne à prendre, parce que c'est la vie. Hein.
Exactement. On peut poétiser le premier geste que l'on fait le matin en se levant. On peut poser ses deux pieds au sol et d'un coup se dire... Mais c'est merveilleux, je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui. Peut-être que des trucs horribles, peut-être des trucs moyens, peut-être des trucs formidables. Peut-être que je vais faire des rencontres, peut-être pas. Et hop, ça y est, on a mis un peu de poésie. C'est-à-dire que la poésie, c'est aussi une forme de conscientisation de son existence. Comme si on incarne, qu'on habite d'un coup notre existence. Habiter son existence, l'incarner avec son corps, comprendre ce qui se passe, enfin... C'est même pas comprendre, c'est ressentir ce qui se passe. On est déjà dans la poésie et on est aussi dans la sophrologie. C'est vrai.
Eh bien, merci beaucoup, Marcella, pour cette superbe conversation. Je sens que ma journée va être bien ancrée dans mes pas et dans tout ce qui pourrait m'advenir. Merci beaucoup.
Merci à vous. C'était très agréable. Merci beaucoup.
À très vite.
À très vite.
Alors, heureuse ?
Vous venez d'écouter un épisode spécial de l'Affranchi Podcast, enregistré le 26 mars 2021. Cette rencontre s'est déroulée dans le cadre du festival Olé Livre, organisé avec la complicité de l'Association des éditeurs et des éditrices des Hauts-de-France. Merci à Marcella et à Élise Bétremieux pour leur collaboration et pour ce superbe travail au sein des éditions Les Venterniers et de cette collection Les Gens. Merci à Oya pour la musique de cet épisode. Retrouvez Poèmes à murmurer à l'oreille des bébés, Les gens qui s'aiment et Les gens qui dansent dans toutes les librairies et particulièrement à l'Affranchi. À bientôt.
L'Affranchi Podcast, c'est à la réalisation, Soazic Courbet. À la prise de son et au montage, Emmanuel Vacher. Si tu réalises que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans savoir où tu vas, résiste, prouve que tu existes avec l'Affranchi Podcast.
C'était fort.